Le but n'est pas forcément de savoir, mais plutôt d'apprendre et partager, comme l'explique Farida, l'une des participantes.
C'est vrai qu'une dame elle va échanger des histoires. Bon, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est particulier, parce qu'il y a énormément de monde, mais les premières fois, on était tout autour de la table, et puis une, elle dit quelque chose, elle rigole, et puis on se soutient entre nous, on se félicite. Non, franchement, c'est très, très sympa.
Parce qu'ici, on est encore au niveau débutant. Là-bas, oui. Là, elles peuvent même regarder la télé. Là.
Parmi toutes ces femmes, Solène, 13 ans, est venue avec sa sœur et sa maman avec un objectif bien précis.
Je vais apprendre le crochet pour faire un sac au final.
Jusque-là, comment tu trouves ?
C'est un peu compliqué, mais c'est sympa.
Pourquoi c'est compliqué ?
Parce que je compte pas tout le temps les mailles.
Mais comment est né ce projet où toutes les générations se mêlent autour de laine et d'aiguilles à tricoter que la bibliothèque met à disposition? Écoutez la réponse de Muriel Gray.
Au départ, c'est une jeune, une adolescente. Comme maintenant à l'école, on n'apprend plus à tricoter ou à crocheter. Elle voulait un livre pour apprendre. J'ai cherché dans la bibliothèque, je trouvais qu'on avait quand même des livres qui étaient un peu vieux. Donc on en a acheté des plus actuels. Et puis après, avant de lui donner les livres, je trouvais que c'était un peu dommage qu'elle l'apprenne toute seule à la maison. Donc on a commencé à collecter des pelotes de laine. On m'a demandé à ceux qui venaient s'ils avaient des restes de laine ou des pelotes qu'ils employaient plus, des aiguilles, des crochets. On a petit à petit monté toute une lainothèque, c'est-à-dire une bibliothèque de laine. Et puis après, on cherchait quelques lectrices qui savaient tricoter, on a proposé cette animation qui a plein succès, je trouve.
Et Muriel Gray a une idée en tête pour la fin de l'année, avec comme objectif de montrer à la population le fruit de ses ateliers.
Alors le but, c'est de faire un urban tricot tous ensemble, c'est-à-dire un projet qu'on puisse montrer dans le village, quelque chose qui a été créé.
Ta laine à toi, elle est très fine.
Et ce que cet atelier de crochet et de tricot amène aux participantes, eh bien finalement, c'est tout simple.
Une rencontre, simplement de faire la connaissance avec des jeunes ou des moins jeunes, de se connaître, de passer un beau moment. Nous, la bibliothèque, on a mis en place ça. Mais à l'heure actuelle, on n'offre que le lieu et la tasse de thé. C'est tout. Après, elles se débrouillent, elles font comme elles souhaitent.
Celle-là, c'est plus ou moins la même chose.
J'en ai une, mais c'est un peu comme ça.
À noter que toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de la bibliothèque de Port-Valais.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Avenir, Pentecôte, Joie, Seria, Salma, Joseph, Mohamed, Amadou, Aïcha, Sublime. Voilà des prénoms des enfants qui arrivent et qui repartent de la maison de Terre des Hommes en Valais à Massonger. Des enfants qui y séjournent en moyenne 2 mois, mais pour certains, 2 ans. Ils sont soignés aux hôpitaux universitaires de Genève ou au centre hospitalier universitaire vaudois avant de repartir au Niger, au Tchad, au Gabon, au Congo. Et la liste peut continuer longtemps puisqu'en 2023, la maison a accueilli 166 enfants de 23 pays. Valérie Favre a suivi une journée de vie dans cet endroit si particulier, mais vital.
D'abord, on lave les enfants, on les prépare, on les habille, et puis on les place à table à 8h du matin. Alors, je m'appelle Vania, je suis éducatrice ici au sein de la maison Terre des Hommes Valais, et ça fait maintenant 5 ans que j'exerce ici en tant qu'éducatrice. Les grands vont préparer les tartines pour les petits. Ils vont attendre le départ du petit déjeuner, c'est-à-dire le feu vert de l'éducateur qui va dire bon appétit. De là, ils vont pouvoir commencer à manger tous ensemble. C'est un peu comme ça que ça se passe le matin chez nous.
Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous.
Voilà, c'est un... Donc ici, on a l'infirmerie.
Voilà, c'est un peu le lieu.
Je suis Émilie, désolée, c'est la peluche ce matin, on n'a pas eu le temps. Émilie, infirmière, enchantée.
Émilie.
Et puis, donc on a un horaire, donc aujourd'hui c'est Maxime. C'est un étudiant stagiaire qui est dépêché pour venir m'aider à l'infirmerie.
Ok.
Ça veut dire qu'il va venir pour m'accompagner, pour tenir la main des enfants quand il y a besoin de réconfort. Donc là, on va s'occuper de Alex, qui a une petite plaie au niveau du bras. Tu peux venir là, viens t'asseoir.
Quotidiennement, déjà, on fait une observation de chaque enfant, voir son état clinique, voir s'il participe bien aux activités de la maison. On a de la chance d'avoir une super équipe éducative qui vient, dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez un enfant, qui vient nous le signaler. Donc, ces enfants-là en particulier, on va aller voir à l'infirmerie, voir s'ils ont des douleurs, pourquoi ils ont, par exemple, des difficultés à respirer, pourquoi ils sont plus fatigués que d'habitude. Donc, la surveillance, elle fait déjà partie intégrante de notre activité quotidienne.
Sangluda, toi, tu peux t'asseoir.
C'est bon.
Et quand on y réfléchit de plus près, on pense que chaque semaine, on peut avoir 3, 4, 5 opérations du cœur. Et ça, ça donne un petit peu le tourniquet, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'imaginer que tous ces petits ou plus grands qu'on croise ici, il y en a 3, 4 ou 5 qui vont se faire ouvrir le thorax pour se faire opérer du cœur.
Philippe Jex, directeur de la maison Terre des Hommes Valais.
Ça fait partie de ces journées types, mais qui en fait ne sont pas si types que ça. C'est quand même assez particulier, je dirais.
Ouh.
Ouh. T'entends la voix ?
Ah ouais.
Tu entends la voix de ton pote ? Tu veux parler toi ?
Oui.
Tu veux raconter d'où tu viens ?
Oui.
Tu viens d'où ?
Nidal.
Et puis comment ça s'est passé? Ça fait longtemps que tu es venu ici?
Oui. Oui.
Avenir, tu veux répondre à une question, hein?
Oui.
Au micro?
Oui.
Tu es d'accord?
Oui, c'est moi.
Tu es prêt?
Oui.
Raconte-moi comment tu t'appelles.
Charlie.
Oui. Dis ton prénom.
Je m'appelle Avenir. Oui.
Aujourd'hui, enfin le lundi, il y a les contrôles à l'hôpital. Ça se fait principalement au HUG.
Alors, on a plus d'enfants qui sont traités au HUG qui sont traités au CHUV, à Lausanne. Donc, il y a ce rythme du lundi qui est relativement ancré dans le... Enfin, moi, j'ai toujours connu ça. Le lundi, consultation globale. Et le lundi, on a également passablement de soins dentaires au HUG, parce que soins dentaires dans le cadre de cardiopathie, c'est hyper important, vu que c'est quand même la bouche, quand même la porte d'entrée d'un système respiratoire relié au poumon, au cœur.
Attention, les mains. Enlevez la ceinture. On s'attache comme il faut. Je vais venir contrôler les ceintures.
Juste, allez, tu me prendrais d'aller en chercher.
Merci Maëlia.
C'était deux à conduire.
Ouais, alors moi je conduis. Et puis Maëlia, elle m'accompagne. S'il y a un souci, elle s'occupe avec les enfants. Enfin, okay. Gérer s'il y a un enfant qui pleure ou. Tu veux dire, elle veille à ce que ça se passe bien derrière, quoi.
Ouais, parce qu'ils sont.
Là, ils sont 6. Et puis 5. Et puis en fait, au retour, j'en aurai 6.
Toi, c'est bon.
Ça joue les loulous.
C'est bon, vous êtes tous attachés.
Et là, ouais, c'est là parfait. On est bien. Toi, c'est bon. Ok, tout est parfait. Ça va les loulous? Vous êtes prêts? On va mettre la musique.
On a tout.
Parfait. Ok, super.
Voilà.
Ça vous fait rire, hein?
Salut les filles, amusez-vous bien. Bonne route.
Donc il y a l'histoire.
Ah pardon.
C'est parti.
Allez, ciao, bonne journée.
Bonne journée.
Ciao, ciao.
Ils sont toujours à deux.
Mais généralement, oui, ils sont toujours à deux. Il y a un éducateur et un stagiaire éducateur. C'est vraiment super bien organisé. Et en fait, on profite à chaque fois de ce passage à Genève pour aller voir les enfants qui sont déjà hospitalisés, qui sont sur place, okay. Pour aller leur faire coucou. Et puis c'est bien pour eux parce que ils sentent qu'on les oublie pas. On va leur faire un coucou quand ils sont hospitalisés, puis ça leur fait un bien fou, quoi. Mm. Puis même les enfants, ils peuvent aller les voir, leur faire un coucou.
Ils mangent
là-bas.
Ouais.
Mm. Puis on met à l'honneur aussi tous les bénévoles qui tournent autour et qui gravitent autour de la maison, que ce soit les convoyeurs. Quelquefois, on a des enfants qui partent pour l'aéroport de Genève à 4h30 du matin. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris ici, c'est la bonté, la générosité des gens qui viennent juste pour nous aider et juste pour aider ces enfants qui sont là. Et ça, c'est merveilleux. Et ça souligne vraiment.
Comment ça se passe les journées? C'est quoi le moment que tu préfères dans la journée?
Rien.
Rien?
Ou c'est le moment où vous... du 4 heures, ou c'est le moment de détente où vous dansez?
De danser.
Danser, c'est bien?
Oui.
Vous allez encore danser avant le souper?
Oui.
Vous te réjouis alors?
Oui.
Reportage de Valérie Favre que vous pouvez découvrir en vidéo sur radiochablais.ch. À savoir encore, si vous souhaitez aller danser avec eux pour les intéresser, la Maison Terre des Hommes Valais cherche des stagiaires dans le domaine éducatif.
Radio Chablais, programme de nuit.
Toutes. Pas des rétro, ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
Attends, je t'explique, c'est la chronique qui vous apprend des trucs qui font peur. L'aviophobie, c'est quoi? Je suis en compagnie de Marc Jaramillo. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es coach chez Voler sans peur. Et puis du coup, alors, la grande question, c'est l'aviophobie, c'est quoi?
Vaste sujet, Bastien. L'aviophobie, disons que c'est une peur irrationnelle de prendre l'avion, voyager en avion. Mais dans cette peur-là, il y a différents degrés. On va dire modéré, panique et panique totale, voire l'évitement carrément, quoi.
Donc il y a des gens, ils prennent pas du tout l'avion parce qu'ils sont en flip complet.
Tout à fait. Ils sont prêts à faire des voyages en voiture interminables afin d'éviter carrément l'avion, quoi.
Mais alors, les gens en soi, ils ont peur de quoi?
Alors, on retrouve souvent des profils types, du style claustrophobie.
Ok, ouais.
Voilà, on pourrait dire des gens qui perdent le contrôle, qui aiment bien avoir le contrôle sur tout. Et aussi, on a des gens, c'est par rapport à une méconnaissance du milieu de l'aviation en général.
Voilà, de pas trop savoir comment vole un avion, de pas trop savoir un peu tous ces bruits qu'il y a dans un avion.
Tout à fait.
D'ailleurs, ces bruits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruits.
Ouais.
Moi, j'en ai un en tête, typiquement. Je pense que tu pourras m'aiguiller sur ce que c'est.
Ouais.
Ça fait un bruit un peu de fraiseuse. Sous l'avion, on entend vous, vous, vous.
Dans notre jargon, on appelle ça un peu le bruit du chien. Bah, en fait, c'est tout simple. C'est les pompes hydrauliques qui servent pour les volets de l'avion au moment du décollage et puis au niveau de l'atterrissage. C'est simplement la pompe qui se recharge en pression. Et hydraulique. Il y a aussi beaucoup de bruit au sol, c'est par rapport, on n'y fait même pas attention, mais c'est les portes des soutes ou le chargement des valises qui font beaucoup de bruit.
Et les gens,
voilà. Puis les gens, ils sont assez flippés parce que ça fait boum, boum, et puis c'est quoi. Mais on est là, on explique, quoi.
Sinon, un autre truc qui fait beaucoup, enfin, qui surprend surtout quand on est en vol, c'est les turbulences.
Ouais.
Ça, c'est dû à quoi en soi?
Disons, c'est une différence de masse d'air, on va dire, entre du chaud et du froid. C'est un peu comme sur une route, hein. C'est pas tout beau, c'est pas tout plat. Et puis, il y a des petits sursauts. C'est toujours impressionnant quand on est dans un avion, mais si vous parlez avec un pilote, il vous dira tout au grand maximum, l'avion, il bouge de 30 cm sur le haut ou sur le bas.
Ah ouais, parce que c'est vrai qu'on a l'impression des fois qu'on fait des vols planés, non, mais des... Je fais un signe que personne ne voit à part toi, mais vraiment qu'on tombe en fait.
Voilà, c'est une légende, ça bouge pas plus de 30 cm. Et justement, si vous êtes en vol, vous pouvez faire le test avec une bouteille d'eau. Dès que vous mettez une bouteille d'eau sur votre tablette, un exemple, et il y a des turbulences, vous verrez que le contenu de votre bouteille ne bouge pas beaucoup.
Ok. Bon, l'aviophobie, c'est quand même quelque chose qui touche une bonne partie de la population. Au niveau des chiffres, ça représente quoi?
Alors, au niveau, on va dire, global, ça toucherait 30% de la population.
Ah, quand même.
Ce qui n'est pas rien.
Presque autant que les araignées.
Donc, je fais partie. Et puis, dans ces 30%, on va dire entre 4 et 5% qui ne le prennent pas du tout.
Ah. Et donc, toi, coach chez Voler sans peur, le but, c'est donc c'est un peu ces personnes-là, j'imagine, qui viennent vous voir.
Oui.
Ok. Et donc, au final, ils prennent l'avion.
Alors, on a un taux de réussite de 98%.
Ah, quand même.
Voilà. Et puis, oui, généralement, comme ils nous disent à la fin, on change leur vie.
Eh ben, dis donc. Marc Jaramillo, je rappelle, tu es coach chez Voler sans peur. On va faire une petite pause musicale. Et puis, dans la deuxième partie, on va essayer de parler un petit peu plus, justement, de ça. Voler sans peur. Peut-être que ça va
donner l'opportunité à certains de voyager. À tout de suite.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Va des rétro, Ananas.
Je suis désolé, je comprends pas.
Attends, je t'explique.
Sur Radio Chablais.
Ah, c'est tout de suite beaucoup plus clair.
L'aviophobie, c'est la peur irrationnelle de l'avion. Il existe plusieurs degrés de peur avec la claustrophobie, la perte de contrôle et la méconnaissance de l'aviation. Ça touche 30% de la population mondiale, c'est énorme. Mais bon, après cette émission aux côtés de Marc Jaramillo, tout le monde va oser partir voyager. Marc, pour ceux qui osent quand même prendre l'avion, mais qui sont pas très à l'aise, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner à ces gens?
Ouais, je peux vous donner 2-3 trucs de base. C'est déjà pas venir à la dernière minute afin d'être stressé déjà avec votre enregistrement ou la douane, etc. Surtout éviter le café.
Ah ouais?
Ouais, tout ce qui est boisson, on va dire énergisante, voilà, excusez. Et surtout l'alcool.
C'est vrai cette légende que l'alcool il est décuplé en l'air.
Tout à fait. Et aussi pareil pour les médicaments.
Ah voilà.
À éviter absolument. Même que on peut se dire ça pourrait me faire un peu de bien, mais au fait c'est.
Ouais, ouais, il y en a, ils disent je prends un Xanax avant de monter. Alors ça sera évité.
À éviter.
Parce que là aussi ça se décuple.
Exactement.
Et puis donc s'il y a des turbulences par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bah déjà se dire que c'est normal. L'avion est fait pour, il ne va rien vous arriver. Et puis donner quelques petits trucs comme bouger sur son siège, se détendre, pas trop crisper et attendre que ça passe. Mais c'est un phénomène plus que normal.
Un espèce de cercle sur son siège.
Voilà, nous on appelle ça un peu la danse du serpent. C'est bouger sur soi-même, sur son siège, afin qu'au bout d'un moment, le cerveau ne sait plus faire la différence entre si c'est vous qui bougez ou c'est l'avion qui bouge.
Ah, moi j'avais entendu, on dira si c'est un bon truc ou pas, mais qu'il fallait fermer les yeux et s'imaginer d'être dans un bus en train de rouler sur des cailloux.
Aussi.
Mais bon, au final...
Ça peut j'ai un peu de peine ce soir, excusez. Ça peut un peu couper le cerveau dans ses mauvaises pensées.
Ok. J'ai oublié le nom de la Voler sans peur. Voilà.
Voilà.
Donc toi, tu es chez Voler sans peur. Tu
oui.
me disais hors antenne. Enfin, non, on va poser la question autrement. Comment t'as fini chez Voler sans peur?
Ben notre association à Genève fonctionne sous le principe, c'est des anciens, donc j'étais phobique, qui aident les nouveaux. C'est un peu le principe des alcooliques anonymes, quoi.
Donc toi, un jour, tu t'es dit, enfin. Tu prenais pas l'avion.
Voilà.
Mais toi, t'as été te faire aider, justement, chez
oui.
eux?
Ben, un jour, j'ai pas pu monter à bord d'un avion. Justement, j'ai dû annuler mon voyage. Et j'ai fait des 2-3 recherches sur Internet. Et puis, je suis tombé sur l'association. Je me suis inscrit. Donc, c'est un stage qui dure 3 jours à Genève Aéroport avec la collaboration de la compagnie suisse. Et puis, oui, voilà. Ça m'a sorti de ça. Et ensuite, ça m'a tellement plu le concept. Et puis j'ai senti que j'avais peut-être quelque chose à faire dans ce milieu. Et depuis bientôt 3 ans, je suis moi-même coach maintenant.
Ah voilà, trouver la vocation après avoir été phobique, c'est quand même fou. Le stage 3 jours, on fait quoi pendant 3 jours?
Alors c'est coupé en 3 jours. Le premier jour, on va dire, c'est comme on en parlait avant, la méconnaissance du monde de l'aviation. Avec la visite d'un avion, et puis vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à un commandant de bord de Suisse. Ou visiter un avion réel. Et après, on va dire, il y a toute une partie psychologique, et on appelle ça, nous, la boîte à outils. C'est des petits trucs afin de se préparer à certaines situations. Et on finit le stage sur un aller-retour en avion réel, sur un vol Genève-Zurich ou Genève-Nice.
Il y a des gens qui désertent à ce moment-là?
Ça arrive.
Et là, vous faites quoi?
Rien. On doit les laisser partir.
Ok.
Parce qu'autrement, ça pourrait être pire. Disons.
Ouais, alors c'est sûr qu'on va pas les forcer.
Voilà, puis après, ça peut être encore un traumatisme supplémentaire. Mais après, disons, on les accompagne, on les fait revenir, et généralement, ils reviennent, et ça marche.
Ouais, il y a un truc que je me suis toujours demandé, justement. Je pense, moi, le premier jour de stage, je viendrais le faire, juste parce que j'ai plein de questions un peu bêtes. Mais par exemple, on est assis dans l'avion, puis avant le décollage, on entend tout, puis on entend juste. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui parle? Puis il parle à qui?
Ouais, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux qui tournent avec ça. C'est plus, on va dire, l'équipage qui communique entre eux.
Ah, voilà.
Voilà.
Parce que quand on entend ce son, on se dit, ah, on va nous dire un truc, mais en fait, on
entend... Non, pas forcément, pas forcément.
Les pilotes, on dirait qu'ils ont le micro dans la bouche, des fois, quand ils parlent.
Oui. S'ils parlent.
En tout cas, pour les personnes qui sont phobiques, donc je pense que vous avez un site internet.
Alors oui, volersanspeur.info.
Bah voilà, très bien. S'il y a des personnes qui souhaitent aller suivre ce stage aux côtés de Marc, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, peut-être.
Non, merci de l'invitation. Puis je salue toute la team de Voler sans peur à Genève.
Eh bien, on salue toute la team de Voler sans peur à Genève. Merci beaucoup, Marc Jaramillo, coach chez Voler sans peur, d'avoir été avec nous. Une excellente soirée.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Sur le grill.
L'espace Graffenried à Aigle propose deux expositions. Lovely Chablais, l'émergence du tourisme à travers l'art, c'est jusqu'en septembre. Et When the Flowers Bloom de Tracy Lim, ça c'est jusqu'au 9 juin prochain. Il faut se dépêcher d'aller en profiter. Tracy Lim, bonjour.
Bonjour.
D'où est-ce que vous venez?
Je viens des États-Unis, mais origine c'est Corée du Sud.
Tracy Lim, il fit parler des matériaux, des matières qui ont été utilisées. Il y a du papier spécial, expliquez-nous.
C'est un peu spécial papier à Corée du Sud. Il s'appelle Hanji. Et c'est un spécial matériel qui vient en Corée.
Qui est fait à base de quoi?
C'est à base de l'arbre.
Chloé Cordonnier, responsable ici de l'espace Graffenried, bonjour.
Bonjour Cyril.
Juste pour compléter, donc justement les matières utilisées sont très importantes aussi dans la démarche artistique de Tracy Lim.
Oui, tout à fait. Il s'agit de feuilles de riz en fait, pour résumer. Donc le papier de riz qu'elle appelle Hanji. En fait, c'est la feuille de riz qui vient de Corée du Sud et qui est appliquée directement sur la toile avec un processus de séchage à l'air spécial qui prend plusieurs jours. Donc c'est vraiment un travail qui prend du temps, qui demande de la patience, de la contemplation aussi. Et ensuite, Tracy vient appliquer ses couleurs, ses pigments naturels, donc ses fleurs en fait, sur la toile qui a séché. Et au préalable, elle dessine les contours des fleurs à l'encre de Chine.
C'est très important, Tracy Lim, parce que justement, il y a toute une démarche artistique pour prendre le temps. Et on prend le temps, ça nous rappelle peut-être, nous, petits Européens qui ne connaissons peut-être pas assez bien l'Asie, mais certaines cérémonies, certains processus où justement il faut prendre le temps et la contemplation est importante.
C'est tous les deux, c'est comme en méditation avec le temps. On attend et pense dans la tête et après on fait la procédure avec la nature, avec le vent et aussi pour sécher le papier et tout ça.
Toute une procédure artistique qui permet justement de prendre le temps de réfléchir. Donc quand on vient admirer votre art, on peut méditer devant vos fleurs et c'est le but, c'est de pousser à une certaine réflexion, à une certaine méditation.
Oui, c'est comme une méditation, ça dépend des personnes, mais je crois que c'est possible de réfléchir quand vous voyez les peintures. Et peut-être c'est possible de reposer pour voir mon peinture et faire la méditation.
Merci Tracy Lim. Chloé Cordonnier, justement, encore un petit mot là-dessus. Vous, quel effet ça vous fait quand vous retrouvez devant les œuvres de Tracy Lim?
Ah, c'est une bonne question ça. Mais je trouve que cette exposition est parfaite pour le printemps, justement, parce qu'on a ces couleurs très fraîches, très vives et douces à la fois. Donc de prime abord, on entre dans la salle et on est envahi par toutes ces couleurs qui sont réconfortantes. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine nostalgie. Bon, peut-être que je suis biaisée parce que je connais un peu la démarche, les propos de l'artiste, mais elle parle d'une certaine nostalgie pour son pays d'origine qu'on retrouve dans ses tableaux, notamment parce qu'elle représente la fleur cosmos qu'on trouve notamment en Corée du Sud. Donc un mélange de sentiments, de sensations, mais beaucoup de douceur. Et c'est vrai qu'on a envie de prendre le temps d'observer chacune de ces couleurs et d'observer aussi la nature quand on sort de l'espace Graffenried et ce beau printemps qui nous attend.
Donc ça pousse à la contemplation dans l'exposition et à l'extérieur de l'exposition.
Oui, je crois qu'on peut dire ça.
Merci beaucoup. Merci Tracy Lim.
Merci.
When the Flowers Bloom, l'exposition de Tracy Lim, c'est à l'espace Graffenried à Aigle jusqu'au 8 juin prochain.
Sur le grill.
Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Sur le grill.
On refait un tour dans le monde de Tracy Lim, l'artiste coréenne, et surtout dans le monde de l'espace Graffenried et tout ce que ça propose.
Chloé Cordonnier rappelait aussi qu'il y a un atelier créatif pour les enfants de 6 à 12 ans, samedi 1er juin à 14h, c'est gratuit mais sur inscription, à la découverte de l'art coréen en présence de l'artiste, ça c'est un moment d'exception.
Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose de spécial. On n'a pas fait ça jusqu'à maintenant. Donc là, on a la chance d'avoir Tracy Lim qui sera présente samedi 1er juin à 14h pour apprendre un peu aux enfants chablaisiens et chablaisiennes, parce que là, c'est hors classe. Donc, c'est un samedi. De leur apprendre l'art coréen, mais une technique bien particulière, celle de la feuille de riz hanji. Et puis, on a la chance aussi, Tracy Lim est sponsorisée en partie par un monsieur qui s'appelle Monsieur Choi, qui habite dans la région de Jeolla, en Corée du Sud, et qui a justement une entreprise, un atelier de feuilles de riz hanji. Il est considéré lui-même comme faisant partie du patrimoine immatériel de Corée du Sud. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant, et on est très 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 heureux de pouvoir proposer ce papier qui vient directement de Corée du Sud aux enfants pour l'atelier, et d'avoir toute l'expertise et la bienveillance de l'artiste aussi pour ces 2 heures d'atelier samedi 1er juin. Sur inscription, les places sont limitées, ça se remplit déjà très vite, on n'aura pas plus que 15 places, donc on vous conseille de vous inscrire par email très rapidement, c'est gratuit.
Tracy Lim, vous voulez juste remercier aussi une fondation très importante pour vous. Quelle fondation ?
C'est la Fondation Omer.
Alors la Fondation Omer, il y a un lien très important aussi avec le cordonnier, parce que Tracy Lim va quand même grimper en prestige cette année grâce à Christie's.
Oui, c'est vrai que cet été, Tracy Lim participe à une vente aux enchères à Londres avec Christie's. Donc elle aura l'occasion de vendre les œuvres qui sont dans l'exposition When the Flowers Bloom à l'espace Graffenried cet été avec Christie's. Et la Fondation Omer, qui est une fondation humanitaire pour la recherche dans le domaine de la santé, la sponsorise dans ce cadre.
Moment d'anthologie prévu par l'espace Graffenried, cet atelier créatif pour les enfants, la découverte de l'art coréen en présence de Tracy Lim, l'artiste, samedi 1er juin.
Et l'exposition de Tracy Lim, c'est jusqu'au 8 juin, on vous le rappelle, dépêchez-vous d'aller regarder ça.
Sur le grill.
Radio Chablais, programme de nuit.
Radio Chablais.
Le nombril du monde.
Le nombril du monde.
Bienvenue chez nous.
C'est plus grand que ce que je croyais.
Le nombril du monde. On se trouve devant la salle polyvalente de Dorena. Dorène, pour les intimes. À l'intérieur, il y a des enfants qui font leur cours de gym, qui ont l'air de s'éclater, tant mieux pour eux. Ma très chère guide Yasmine, il est venu l'heure de nous quitter, mais avant quand même, je voulais savoir, dans ton petit cœur à toi, qu'est-ce que ça te fait ? Pourquoi Dorène, c'est effectivement le nombril du monde ?
Alors déjà, pour une petite astuce culinaire, pour la tarte au pruneau.
Arrête.
Ouais. Si on regarde les photos des années 60, il y avait plein de pruniers partout qui ont un petit peu disparu, mais mes grands-parents avaient des pruniers. Et vraiment, il y a des endroits, des villages, on les connaît pour les poireaux et d'autres. Et nous, c'est la tarte au pruneau qui était un peu l'emblème culinaire de Dorena. Et là, peut-être, je lance un petit appel, un petit défi, que ce soit la commission Aînés Jeunesse et Culture ou la Société de Développement. Peut-être une fois, on préfère la fête du pruneau ou un concours de la meilleure tarte au pruneau, ça pourrait être pas mal.
Oui, je suis 100% d'accord avec toi. Le message est lancé.
Voilà, et puis sinon, Dorena, mon coup de cœur, j'ai grandi ici. J'ai vu le village doubler d'habitants. Et puis, moi, je suis impressionnée quand je regarde, c'est la quantité de sociétés locales qu'on a. On parle toujours de manger local, et moi je dis il faut vivre local parce que il y a tellement de choses à faire à Dorena. On a, comme beaucoup de villages, une société de chant, une société de fanfare. Mais à part ça, si on est sportif, on peut faire de l'aïkido, du tennis de table, le street hockey qui est bien connu ici, la gym. On a une cabane au sommet de la montagne, on peut faire du ski, du tir au pigeon. On a les chasseurs qui se regroupent, les aînés qui ont leur propre club, la jeunesse maintenant de Dorena, les ados qui se mettent ensemble, je trouve ça super chouette. Les modélistes aussi qui font voler une fois par semaine leur machine, c'est c'est assez beau à voir aussi. Les tracteurs tondeuses, comme on discutait tout à l'heure.
Oui, on est dans la capsule précédente, le championnat des tracteurs tondeuses.
Voilà, on a des ateliers créatifs, la maison des contes et légendes. Donc il y a plein de choses, je pense que c'est... on doit trouver son bonheur à Dorena parmi toute cette foule d'activités. Et puis j'espère que les gens ils vont trouver leur bonheur et puis qu'on va rester un village où il fait bon vivre, même s'il y a un tout petit peu de vent ce matin.
Moi j'adore aussi la tarte aux pruneaux, mais attention, notre poisson faux, si vous savez pourquoi.
Radio Chablais.
Le nombril du monde. Bonne nuit sur Radio Chablais.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais.
Alors, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, aujourd'hui, on s'attaque à la question existentielle qui mérite réponse. Pourquoi fait-on des cauchemars? Je suis sûre que, comme moi, les cauchemars ont traumatisé votre enfance et si vous auriez pu faire ça sans, ça aurait changé vos nuits pour le meilleur. Alors, pourquoi on n'a toujours pas trouvé le moyen de les éradiquer? J'ai creusé le sujet et il s'avère que c'est complètement normal et apparemment même healthy d'avoir des cauchemars, enfin de faire des cauchemars au moins une fois par mois. Bon, sur ça, j'ai des doutes, mais ma foi, c'est ce qui est écrit sur Internet, donc ça doit être vrai. En fait, quand on dort, les rêves permettent de réguler les émotions et les événements de la journée, ce qu'on a ressenti, la joie, la peur, le stress, etc. Et les cauchemars, eux, ce sont des échecs du processus de régulation des émotions pendant le sommeil. Alors, en gros, ça veut dire que le cerveau déconne, et c'est un bug dans le système. Alors, même si les cauchemars arrivent en fin de cycle du sommeil, dans la phase de ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, ça peut nous prendre une demi-heure, voire beaucoup plus, pour nous rendormir parce que notre cœur bat super vite et notre cerveau est lancé à pleine vitesse. Alors, le mieux dans ce cas, pour l'avoir vécu beaucoup de fois, c'est d'allumer la lumière, histoire de se reconnecter avec la réalité, de sortir de son mauvais rêve. Et puis, ma foi, si vous dormez à côté de quelqu'un, on dit bien que la misère, ça se partage. Et pour aider votre cœur à retrouver un rythme cardiaque plus doux, les exercices de coordination respiratoire sont juste fabuleux. Je vous les recommande. Il y a un autre truc aussi complètement effrayant dans le monde des cauchemars, ce sont les paralysies du sommeil. Alors pour ceux et celles qui sont assez chanceux de ne pas savoir ce que c'est en fait une sensation désagréable où on a l'impression d'être réveillé et qu'il y a quelqu'un ou quelque chose dans notre chambre qui nous veut du mal. On ne peut pas bouger, on ne peut pas crier ou appeler à l'aide, on n'est plus maître de notre corps. Bref, alors non, c'est pas un scénario de film d'horreur. Quoique, en fait, c'est juste notre cerveau qui tourne à plein régime alors que notre corps, lui, il est complètement endormi. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut plus bouger et puis qu'on peut pas crier. En fait, on est pile poil entre le mauvais rêve et la réalité. Et j'ai découvert à travers ma petite expérience personnelle dans le domaine que les cauchemars arrivaient à chaque fois que je mangeais trop ou trop gras, ou alors ils arrivent quand je suis dans un état de fatigue extrême. Donc, le mieux, c'est de se coucher tôt, de manger léger, d'éviter tous les films d'horreur avant d'aller au lit et d'éviter tout ce qui peut vous procurer des émotions fortes ou négatives, comme par exemple répondre aux emails ou faire ses impôts pour les retardataires ou encore faire son ménage. Voilà, voilà.
La question existentielle.
Qui je suis-je? Où je vais-je? Dans quelle étagère?
Sur Radio Chablais. Bonne nuit sur Radio Chablais.
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais.
Alors, comme on est dans le thème du sommeil aujourd'hui, j'ai voulu m'attarder sur une expression idiomatique qui m'a toujours interpellée, c'est « dormir sur ses deux oreilles ». Ce qui veut dire dormir profondément, de manière sereine et tranquille, sans se soucier de rien. Et ça m'a toujours fait sourire parce que, on est d'accord, techniquement, c'est impossible de dormir sur ses deux oreilles, n'est-ce pas ? À moins qu'on n'ait pas eu de chance à la naissance et puis qu'on a des oreilles vraiment très grandes et qui, du coup, quand on dort, se calent sous notre tête. Enfin bref, alors... D'où vient cette expression? De ce que j'ai pu trouver comme info, cette expression elle date du 19e siècle et ce serait initialement dormir sur les deux oreilles. Elle trouve son origine dans un dicton latin dont je ne vais pas vous faire l'offense de citer. Je vais plutôt me contenter de la traduire, ce qui donne dormir sur l'une ou l'autre oreille. Et donc, si on fait un raccourci, l'une ou l'autre oreille, ça équivaut à dire les deux oreilles. Et donc, ça prend son sens de dire dormir sur les deux oreilles. J'imagine qu'au fil du temps, on a voulu préciser à qui appartenaient les dites oreilles, au cas où on confondrait avec celles du voisin ou du chien. Tout ça pour dire l'expression « dormir sur ses deux oreilles », je pense très personnellement qu'elle aurait dû être suivie du mot « alternativement ».« Dormir sur ses deux oreilles, alternativement ». Voilà, voilà.
La question...
Pardon ?
Tu dis quoi ?
Sur Radio Chablais. Retrouvez vos rendez-vous quotidiens durant la nuit.
Je suis.
Voici les titres du journal.
Des éducateurs sociaux en formation ont organisé mardi dernier une journée sportive placée sous le signe de l'inclusion à Aigle. Des élèves ont ainsi pu jouer à divers jeux avec d'autres enfants en situation de handicap. Une majorité populaire se décide en faveur des deux initiatives santé soumises à la votation le 9 juin, mais une division apparaît entre les régions. La Suisse romande est nettement favorable, alors que les alémaniques sont partagées, voire opposées. Le Tour du Pays de Vaud peut envisager son édition 2024 avec sérénité. Les problèmes de logement et financiers ont pu être résolus. Place au spectacle avec une étape au Longvillard.
Pour la météo, de belles éclaircies pour ce début d'après-midi avant le retour des nuages. Et pour ce week-end, il sera mitigé. On fait un point complet sur la météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Julie Gay. Bonjour Julie.
Bonjour Axel, bonjour à toutes et tous. Une journée sportive placée sous le signe de l'inclusion et de l'échange. Voilà le projet mené par des éducateurs sociaux en formation de l'École supérieure sociale intercantonale de Lausanne. Présents à Aigle mardi dernier, de nombreux élèves de différents établissements de la cité chablaisienne, dont des enfants en situation de handicap, ont ainsi pu se rencontrer et partager un moment particulier sous la forme de jeux sportifs. Alessandro, l'un des organisateurs, connaît bien cet univers. Il travaille à la fondation La Monresse à Aigle qui accompagne des enfants en situation de handicap et il avait déjà réalisé un événement comme celui-ci.
Moi j'avais monté il y a 6 ans en arrière des JO Interfondation dans les mêmes mordes d'idées et l'idée c'était de pouvoir faire renaître ça un peu. Puis pour moi c'est aussi une manière de boucler la boucle. J'ai commencé par ce projet-là et je finis par ça. Je finis avec tous mes collègues avec qui j'ai fait mes 2 ans et on est vraiment à cœur de faire quelque chose de bien. Et je crois qu'aujourd'hui, on est plus ou moins satisfaits de ce qui est en train de se passer.
Et on voit finalement que ça se passe très bien. Il y a une espèce de cohésion. On le voit, il y a quand même de la compétition.
Ah ouais, alors la compétition fait partie du sport. Donc on essaie de la réduire au maximum. Mais non, pour moi, ça se passe bien. Il n'y a pas de mésentente, il n'y a pas d'engueulade. Il y a une bonne collaboration qui me surprend à des moments. Alors oui, il y a de la compète. Et pour moi, ça reste bon enfant. Et ça reste quand même l'objectif de la journée.
Un sujet réalisé par Léa Journeau.
Comme disait Baudelaire, enivrez-vous.
Tel est le message de Swiss Wine Valley, la fêtière de promotion des vins et du canton à l'occasion de la sortie du millésime 2023, présentée hier à Montet. L'ivresse n'est pas l'excès, précise l'œnologue cantonale Nadine Pfenniger-Bridy. Elle souligne qu'il s'agit d'un millésime du vigneron, lié donc au travail du professionnel de la cèpe pour garantir des crus de qualité. Et si les étoiles du Valais ont été remportées principalement par des vignerons, les vigneronnes ont aussi leur place, selon Nadine Pfenniger-Bridy.
Je crois que c'est vraiment un métier qui se féminise beaucoup. Il y a passablement de femmes aujourd'hui dans le métier qui sont dans la lumière aussi. Alors c'est un petit peu le hasard des choses qui fait qu'aujourd'hui il y avait peut-être beaucoup d'hommes qui sont venus présenter les vins. Mais c'est un métier où la femme de plus en plus a sa place et une jolie place.
Des propos recueillis par Valérie Favre. Il sera possible de les déguster lors des caves ouvertes valaisannes du 9 au 11 mai. Une dizaine d'étudiants pro-palestiniens ont passé la nuit dans un bâtiment de l'université de Lausanne. L'occupation continue actuellement de se dérouler pacifiquement. Ces étudiants réclament notamment un boycott académique des institutions israéliennes ainsi qu'un cessez-le-feu immédiat sur les territoires palestiniens. Ils se sont engagés à ne pas perturber les cours et les activités de recherche. De son côté, l'UNIL a promis de ne pas prendre de sanctions académiques. Il y aura du suspense le 9 juin prochain lors du deuxième dimanche de votation fédérale de l'année. En particulier autour de l'initiative qui veut plafonner à 10% du revenu les primes de l'assurance maladie. Le premier sondage effectué il y a un peu plus de 6 semaines du scrutin donne le oui gagnant à 56%. L'autre initiative qui entend mettre un frein au coût de la santé est elle aussi soutenue par une majorité de 52%, mais cela risque de ne pas suffire. Le résultat est par contre acquis pour les deux autres objets. Ce sera oui à la loi sur l'approvisionnement en électricité et non à l'initiative pour l'intégrité physique. L'analyse de notre correspondant parlementaire Serge Hubin.
Le soutien d'une majorité d'une UDC divisée à l'initiative des antivax et son rejet, tout aussi partagé, de la loi sur les énergies renouvelables n'auront aucun effet. Le oui au Mantelerlas électrique et le rejet de l'initiative pour l'intégrité physique, tous deux à 70% et plus dans le premier sondage GFS Bern, tous deux sont donc acquis. C'est autrement plus incertain pour les initiatives en lien avec les coûts de la santé et surtout celle du PS pour plafonner à 10% du revenu la charge des primes maladie. À 6 semaines du scrutin, avec un stade de formation de l'opinion avancé, c'est 56% de oui contre 40% de non et seulement 4% d'indécis. Avec un rejeté Graben, le oui dépasse les 70% en Suisse romande et au Tessin. Il est à 50% en Suisse alémanique. Les sondeurs haussent un demi-parallèle avec l'initiative pour la 13e rente AVS, mais ils se gardent bien de donner une tendance pour la votation du 9 juin. Le oui populaire pourrait se maintenir, mais le problème majeur serait alors la majorité des cantons. L'initiative du centre pour un frein au coût de la santé vire elle aussi en tête, mais avec très peu d'avance, 52% de oui, 41% de non et 7% d'indécis, avec une formation de l'opinion encore faiblement avancée. La perspective n'est pas positive, selon GFS Bern. Si elle suit le parcours habituel, l'initiative sera rejetée, ce d'autant que le oui n'est pas à 50% en Suisse alémanique. La majorité des cantons paraît inatteignable.
C'était l'analyse de Serge Hubin.
Soufflez dans le ballon, s'il vous plaît.
Ce qui se fait au contrôle routier pourrait se généraliser dans les hôpitaux, notamment en soins intensifs. Non pas pour mesurer l'alcoolémie, mais pour pouvoir suivre en temps réel l'état de santé des patients et contrôler le taux de certains médicaments. Avec le soutien du Fonds National Suisse, des scientifiques balois ont développé un sac spécial qui suffit pour prélever l'air expiré par des personnes hospitalisées et les analyser. Les pressions politiques sur la presse augmentent dans le monde, alors même que la moitié de la planète vote cette année. C'est l'alerte lancée par Reporters sans frontières dans son classement 2024 publié aujourd'hui. La Norvège reste en tête de ce 22e classement de la liberté de la presse, tandis que l'Érythrée arrive en dernière position, 108e, après la Corée du Nord les deux années précédentes. La Suisse s'en sort bien en occupant la 9e place. Il y a 175 ans, jour pour jour, naissait la pionnière allemande de l'automobile, Bertha Benz. C'était le 3 mai 1849. Grâce à son engagement, elle a créé les conditions nécessaires à l'invention de la voiture à moteur Benz qu'on doit à son époux, Karl Benz. Elle fut la première personne à effectuer un long trajet en voiture. C'était le 5 août 1888. Elle parcourut avec ses deux fils 106 km de Mannheim à Porfzheim à bord de la voiture à trois roues Benz. Elle est décédée le 5 mai 1944.
Eden Golan, jeune chanteuse israélienne de 20 ans, va représenter son pays pour la prochaine édition de l'Eurovision en Suède.
Les regards se tournent vers elle alors que les appels à exclure Israël de la compétition se multiplient. La présence à ce télécrochet européen fait polémique. Les organisateurs du concours n'avaient d'ailleurs pas validé sa première chanson « Pluie d'octobre », largement perçue comme une référence aux victimes de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre, la trouvant trop chargée politiquement. Eden Golan représentera donc son pays avec une nouvelle version de la chanson intitulée « Ouragan ». On passe au sport, le Blonay Basket aura certainement avantage ce week-end lors du Final Tour de la NLB féminine. Les Vaudoises disputeront les finales du championnat à domicile dans leur salle de Baïse. Elles seront opposées demain à Sion en demi, après avoir éliminé Arlensheim en quart il y a 2 semaines. Il s'agira d'un match simple, sans duel retour. Il faudra donc être performante le jour J pour les joueuses du coach Nadir Moussaoui.
Déjà samedi, c'est vraiment la forme du jour. Autant physiquement que mentalement, un petit peu tactiquement, mais je pense que la tactique, elle peut faire la différence sur un match serré. Mais le fait d'être bien devant ou un petit peu derrière, c'est vraiment la forme du jour. Aussi gérer le stress, gérer un peu les émotions, parce qu'il y a beaucoup plus d'émotions dans un Final Four, dans une demi-finale. C'est des matchs un peu différents parce qu'il n'y a pas de lendemain. Alors que tout le reste de la saison, même les quarts de finale, si vous avez un mauvais match, ben vous pouvez vous rattraper au match retour. Là, il faut être en forme samedi à 18h et puis il n'y a pas de lendemain. Donc c'est un peu ça la différence. Mais il n'y a pas de grosse préparation différente tactiquement contre Sion.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Le coup d'envoi de la demi-finale entre Blonay et Sion sera donné demain à 18h. En cas de victoire, les Vaudois seraient qualifiés pour la finale de dimanche pour y affronter l'équipe vainqueur du duel Winterthur-Villars-sur-Glâne.
Après le Tour de Romandie, les routes de la région seront à nouveau empruntées par les cyclistes du Tour du Pays de Vaud à la fin du mois.
Le 25 mai, la troisième étape de l'épreuve emmènera le peloton d'Olon jusqu'à Villars au terme d'un parcours de 87 km agrémenté par 1300 mètres de dénivelé positif et de deux boucles à travers les Chablais, Valaisans et Vaudois. La simple tenue du Tour du Pays de Vaud cette année représente une victoire en soi pour les organisateurs. L'an dernier, la manifestation avait dû être annulée en cause un manque de moyens financiers ainsi que de places de logement pour les athlètes. Cette année, tout fonctionne, mais l'avenir du Tour du Pays de Vaud n'est pas encore totalement assuré. Écoutez son directeur général Alain Witz au micro de Thierry Nicolet.
Je pense que si, comme on l'a entendu Madame Christelle Luzier, si l'État comprend que si on continue à nous demander de faire des choses incroyables, comme par exemple la sécurité, comme avoir une ambulance, c'est 12 000 francs une ambulance pour 4 jours. C'est énorme. On a un budget de 200 000. On a pratiquement déjà 50 000 balles qui sont investies dans la sécurité. Donc on sait qu'on a besoin de sécurité, mais ça a changé du jour au lendemain. On n'était pas prévenus. Donc s'il n'y a pas un peu plus d'aide, ce sera compliqué. Parce que chaque année, on reporte. Mais en tout cas, pour cette année, c'est bon. L'année prochaine, les étapes sont signées. Il faut voir ça avec le sourire.
Le Tour du Pays de Vaud débutera le jeudi 23 mai par un contre-la-montre à Gaulion et se terminera le dimanche suivant à Pomy. 17 sélections nationales seront présentes sur le bitume du canton, en plus de 3 équipes invitées.
L'actu en continu, radiochablais.ca.
Radio Chablais, programme de nuit.
Du Chablais.
Entre vous et nous,
avec Cyril.
Bonjour et bienvenue entre vous et nous tous les vendredis à midi et demi. Les bons conseils de nos experts de la région. Aujourd'hui, nos experts Logipro SARL à Valdilier, Guillaume Boisdin. Bonjour.
Bonjour Cyril.
Alors, on le rappelle, expert immobilier avec brevet fédéral. De quoi on parle aujourd'hui?
On va parler d'une petite révolution qui s'est déroulée sur Genève au sujet de l'immobilier avec un magnifique consensus comme on sait si bien le faire. Alors, je trouvais que c'était l'occasion d'en parler.
Eh ben, pour une fois que c'est pas une gainferaille. Avec plaisir. Et je sais de quoi je parle. Ivano Vresson, bonjour, comment ça va Ivano?
Mais merci, ça va très bien.
On rappelle le responsable de la Raiffeisen ici à Monté. Ivano, petite question qu'on s'est posée, que je vous ai posée l'autre jour. J'ai dit, mais dis donc, la Banque Nationale Suisse, est-ce qu'il n'irait pas à contre-courant des autres banques nationales? C'est ça qu'on va aborder.
Exactement, c'est une question très pertinente.
Et... Ah bah je vous remercie, pour une fois je me sens moins con. Ça sera en deuxième partie. Entre vous et nous, c'est parti justement. Guillaume Boisdin, alors, cet accord historique à Genève, expliquez-nous.
Eh bien, il s'agit de la rénovation énergétique du parc bâti, qui concerne toute la Suisse, hein, bien sûr, la fameuse loi sur l'énergie, on va encore en parler. Mais c'est vrai que là, c'était l'occasion de parler de cet accord qui a été qualifié d'historique par les médias, puisque ce sont pas moins que les associations patronales, les syndicats, les milieux écologiques, les milieux immobiliers qui ont trouvé un accord, qui ont fait un réel consensus et qui se sont dit, voilà, on n'aura pas chacun tous ce qu'on veut, mais autant avoir un petit peu chacun que rien du tout personne.
Et puis de se battre et puis de jamais arriver à trouver une solution.
Donc c'est quand même un petit peu à l'image de la Suisse le consensus, et puis c'est prendre un peu sur soi pour continuer d'avancer. En plus ça concerne entre guillemets la planète, le climat, donc c'est bien.
C'est une belle évolution. Comment ça s'est passé alors? Comment ça a pu arriver cette belle chose?
Alors comme... Toutes et tous devraient le savoir, si vous n'êtes pas au courant, je vous le rappelle, nous avons voté la loi fédérale sur l'énergie il y a déjà quelques années, en les trois grandes lignes, donc l'objectif, un des premiers objectifs temporels de cette loi, c'est 2050, donc ça arrive très vite, hein.
Ouais.
Et les trois grandes lignes, c'est un, baisser la consommation énergétique du pays, hein, global, deux, mais augmenter l'efficacité énergétique du pays aussi, et puis trois, promouvoir les énergies renouvelables. Donc on a déjà fait beaucoup d'émissions là-dessus, je ne vais pas re-rentrer dans les détails, me répéter, je laisserai nos auditeurs aller chercher les différents podcasts qui sont stockés sur le magnifique site de Radio Chablais, je précise. Mais en gros, le parc immobilier a clairement une part prépondérante de la consommation énergétique suisse,
ouais.
Et puis ces fameuses passoire thermique, on en a déjà tellement parlé. Et donc, on est, on est, on est un peu loin du Chablais, mais on est à l'autre bout du lac, au lac de Genève.
Oui, mais ça peut justement donner un exemple pour toutes les régions. Après, je vous poserai d'ailleurs cette question.
Voilà. Eh bien, en décembre 2019, le Conseil d'État genevois quand même déclare l'urgence climatique. C'était quand même pas rien. D'autres ont emboîté le pas depuis, mais voilà, ils ont quand même acté, le Conseil d'État, décembre 2019. Il y a une urgence climatique, il faut agir. Et puis, dans les objectifs du Conseil d'État pour le canton de Genève, en plus des objectifs de la loi fédérale, c'était 2030. Donc 2030, là, on y est très très vite.
Ouais, c'est demain.
C'était baisse, donc 2019, hein, ça date un peu, mais 2030, baisser de 60% les émissions de CO2 pour le canton de Genève. C'est quand même très ambitieux.
En 11 ans, ouais.
Et donc, l'accord qui a été trouvé, disons que c'est, si vous voulez, ça porte sur l'ensemble du parc bâti, sauf, hormis, il y a toujours une exception, à l'exception des bâtiments publics, des bâtiments de l'État qui ont encore une loi séparée. Mais c'est quand même, rien que pour vous dire les chiffres, on sait que le canton de Genève est très bâti, on sait que les loyers sont les plus ou parmi les plus élevés de Suisse. Hein, c'est une région que vous aimez bien, Cyril.
On pratique.
Voilà, le parc de bâtiments publics à Genève, c'est 1408 ans de bâtiments, pour 1 865 000 mètres carrés. Déjà, j'aimerais bien avoir à gérer ce portefeuille immobilier. Je vous le dis tout de suite, si à Genève, ils m'entendent, si vous cherchez un gestionnaire, vous pouvez m'appeler.
Je prends.
Mais donc, voilà, le but, hein, à Genève, comme pour ailleurs en Suisse, par rapport à la loi fédérale, et puis donc maintenant à la loi cantonale pour Genève, c'est bien sûr rénover en priorité les biens immobiliers qui sont les plus gourmands en énergie. Donc, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, on fait un audit. En général, c'est les gros bateaux, hein, qui consomment le plus de mazout, on connaît. Donc, les gros immeubles sont très énergivores. Et puis, dans ces gros immeubles, lesquels sont récents, lesquels sont anciens, on avait déjà parlé ensemble, hein. De mémoire, c'était un immeuble qui est construit avant 1986, consomme le triple ou le quadruple d'un immeuble moderne, puisque bien entendu à l'époque...
Parce qu'il y a la déperdition énergétique.
Voilà, alors j'avais une fois demandé à un collègue architecte à la retraite, mais pourquoi, mon Dieu, on isolait si peu les bâtiments à l'époque? Il m'avait répondu, mais mon pauvre ami, retourne voir combien ça coûtait un litre de mazout à l'époque, et puis c'était ouais, gratuit.
On ne se rendait pas compte.
Alors on n'avait pas besoin d'isoler, c'était gratuit, on chauffait gratuit, donc maintenant on chauffe plus gratuit, on s'est rendu compte que c'était pas bon pour la planète. Et puis donc, rénover son bien en énergie, on a déjà à Genève maintenant 3 ans supplémentaires pour se mettre aux normes, donc on voit que le temps passe et puis que c'est des dossiers très longs, il faut mettre à l'enquête, ensuite il faut faire le chantier, etc. Et puis, la grande nouvelle aussi, c'est que pour financer ces rénovations, l'État va mettre la main à la poche, et pas qu'un peu. C'est-à-dire qu'à l'origine, après la votation de l'urgence climatique dans l'État de Genève, l'État avait dit, ok, nous on va aider à payer à hauteur de 200 millions, on va mettre 200 millions sur la table, 200 millions de francs, pour aider les propriétaires privés, publics, privés institutionnels, à rénover leurs immeubles. Donc ce montant, il a été plus que doublé, on est passé maintenant à 500 millions. Donc l'État de Genève met un demi-milliard de francs sur la table. On a la peine à se rendre compte de ce que ça représente pour justement rénover le parc bâti. Et 70% de cette enveloppe, donc 350 millions pour faire les maths, c'est destiné aux propriétaires privés.
Donc ça incite vraiment tout le monde.
Voilà, donc vraiment maximum d'incitation. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans les émissions qu'on a animées autour de ces thèmes, c'est profiter de ces incitations, profiter de ces aides. Aujourd'hui, on vous aide encore à le faire. Peut-être que demain, on va vous obliger à le faire.
Mais est-ce que c'est ça qui a permis cet accord, justement? Est-ce que c'est ces incitations qui ont permis que les gens se mettent autour de la table? Ou alors est-ce que c'est les gens qui sont mis autour de la table qui ont permis ces incitations et ces montants?
Ça, c'est une bonne question. J'ai envie de dire qu'il y a... Un facteur qui compte énormément, c'est le temps qui passe. On s'est engagé sur des objectifs et puis on se rend bien compte maintenant, au bout de 3-4 ans, que on n'avance pas, on en a déjà parlé. Le taux de rénovation est toujours trop faible. Et puis, on a, je pense aussi, affaire à des femmes et des hommes qui sont avisés et puis qui se sont dit, on va tous y mettre d'une autre. Vous vous rendez compte que l'ASLOCA et la Chambre immobilière se sont mis d'accord. Enfin, rien que ça, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment pour dire, même sur des sujets aussi touchy que le climat, en général, la Chambre immobilière, ouais, et la Sloka.
C'est du fight.
Voilà, c'est comme Titi et Rominé. Enfin, c'est toujours, voilà. Là, non, pour une fois, hein, ils sont d'accord. Et du coup, c'est vrai qu'on a 350 millions de fonds cantonaux qui sont destinés à la rénovation des bâtiments privés. À quoi viennent encore s'ajouter les subsides fédérales? Donc, c'est vraiment très important. Ce qui est très important aussi pour les locataires, c'est qu'ils ont eu leur mot à dire, parce que c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre de l'immobilier en Suisse. Ouais, les locataires, ouais, souvent, ils n'ont pas grand chose à dire. Bien, la Sloka a fait des concessions, mais elle a quand même tenu bon. Il sera impossible à un propriétaire d'augmenter les loyers si, au cours de sa rénovation, il a bénéficié de subsides.
Ça, donc c'est
ça,
cool,
ça, ouais, c'est bien.
Très intéressant.
Ce qui est normal aussi.
Parce que les loyers augmentent pour la valorisation du bien en général. Alors, voilà, que là, l'avantage, c'est qu'au moins les personnes qui habitent là savent qu'elles peuvent continuer.
Oui, puis je pense qu'il y a un statu quo. On sait que les locataires, en général, mais surtout à Genève, ils ont une pénurie de logements disponibles, donc ils ont énormément de peine à trouver à se loger. Les loyers sont extrêmement hauts, donc c'est vraiment des conditions de location qui sont très compliquées, donc c'est bien qu'ils aient droit au chapitre.
Il reste une minute, à peu près une minute trente.
Pour conclure, je pense que ce qui est très intéressant, c'est déjà, on continue de faire des efforts pour notre planète, pour notre climat, pour la performance du parc immobilier. On se veut un pays moderne, on se veut un pays pionnier. Donc c'est génial de se dire que non seulement l'État fédéral, mais aussi les cantons se bougent,
ouais,
pour aller jusqu'au bout. C'est pas juste des grandes idées, des slogans. On va au bout des choses. L'État de Genève casse la tirelire, mais un demi-milliard sur la table. Et puis ce que je trouvais le plus beau, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, c'était accord historique. Puis un consensus où on a mis autour de la table des gens qui parfois se tapent dessus à longueur d'année, puis là ils ont
on a trouvé des solutions,
puis ça n'a pas été un accord youpi, ouais, tout le monde a dû faire des concessions, donc c'est ça qui est génial.
Donc maintenant l'espoir, ce serait que les autres cantons puissent faire la même chose.
Et bien vous m'avez compris,
on verra. Merci Guillaume Voisin.
Je vous en prie.
Logipro SARL à Valdigné, on le rappelle. Petite pause musicale, on se retrouve avec Yvan Oubressant pour parler de la Banque Nationale Suisse.
Bonne nuit sur Radio Chablais.
Entre vous et nous, avec Cyril.
Deuxième partie de votre émission de conseils de découverte tous les vendredis entre 12h30 et 13h. On a parlé d'un accord historique à Genève dans le monde de l'immobilier avec Guillaume Boisdin tout à l'heure. Avec Yvan Oubressant, on va essayer de comprendre pourquoi la Banque Nationale Suisse semble être complètement à contre-courant des autres banques nationales. Expliquez-nous ça.
Alors en effet, Cyril, elle a baissé ses taux d'intérêt avant les autres banques centrales, notamment les principales, la Fed et, ouais, la Banque Centrale Européenne, la Fed étant celle américaine. Il est important pour savoir comment agit la BNS de rappeler quelques notions, et notamment le rôle de la BNS, qui, ouais,
c'est
est
ça,
principalement l'objectif numéro un, c'est de lutter contre l'inflation. Et elle s'est fixée une limite à 2%, qui est également la limite que les autres banques centrales se sont fixées pour limiter cette hausse des prix. C'est peut-être important de savoir aussi de quoi on parle. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur une définition assez brève de l'inflation en Suisse. Et lorsqu'on compare des choses, il est difficile aussi de comparer l'inflation de la Suisse avec d'autres pays, puisque chacun y va de son indice, et cet indice est composé de différentes manières. On le verra en Suisse. Donc c'est cet indice des prix à la consommation qui est abrégé sous forme de IPC. On l'entend souvent, qui est calculé chaque mois par l'Office fédéral de la statistique. Et il est basé sur un panier qu'on appelle communément le panier de la ménagère, mais qui ne comprend pas certaines dépenses. Par exemple, les primes d'assurance maladie, les impôts, les cotisations aux assurances sociales ne sont pas inclus dans cet indice. Comment cette inflation apparaît-elle? Elle apparaît lorsque... la chose classique, c'est lorsque la demande est supérieure à un bien produit. Lorsque la demande est très forte, cela fait grimper les prix. Il y a d'autres raisons qui sont liées à une hausse de prix. Ce sont notamment les coûts de la production ou la hausse des produits importés.
Ouais, puis après, il y a ce qui se passe aussi, la géopolitique, qui fait que l'insécurité est haute.
C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ukraine, la guerre en Ukraine qui a provoqué donc une flambée des prix de l'énergie, et puis notamment des difficultés dans l'approvisionnement, ce qui a engendré des hausses de coûts. Mais une des grandes causes qui a été à la base de la hausse des prix ces dernières années au niveau mondial, ça a été les politiques monétaires qui ont été menées par les banques centrales. En quelques mois, elles ont inondé le marché d'argent. Et notre ami Friedman, qui doit se retourner de sa tombe, fameux économiste, a toujours dit que lorsque l'offre de monnaie est supérieure à la demande, qui peut être mesurée par le PIB, hein, le produit intérieur brut d'un pays, lorsque cette offre de monnaie est nettement supérieure à la demande, s'ensuit une inflation. Et parfois, ça peut être catastrophique.
Parce qu'il faut, rappeler que les pays ont injecté pour stimuler, entre guillemets, la consommation et le marché, puis pour aider aussi. Mais le problème, c'est que sur du moyen long terme, ça se retourne ensuite.
Voilà. Alors après, la BNS est un bon exemple de cette injection d'argent qu'elle a fait de différentes manières. Elle a notamment acheté beaucoup de devises. Là, c'était pour sauver juguler la hausse du franc suisse. Mais il faut savoir aussi que cette inflation a de nombreux dangers et on a la mémoire courte parce que on a été habitué pendant des années à ne plus entendre parler d'inflation. Mais je peux peut-être paraphraser la déclaration d'un gouverneur de la Bundesbank à l'époque, lorsque on avait vraiment un phénomène hyper violent d'inflation dans les années 80, début 90. Et il a dit, lorsque le génie de l'inflation s'est échappé de la bouteille, il est très difficile de l'y faire entrer à nouveau.
Ouais.
On comprend bien l'image. Hein,
fuite en avant.
Voilà, c'est lorsque le phénomène s'enclenche, c'est vraiment très très difficile de...